Shalom mes chers amis, nous allons commencer une nouvelle sidra de podcast dans le cadre du projet Léava rien que pour vos yeux. Aujourd'hui je vous propose avec l'aide d'Hachem de vous partager un enseignement du Rav Eliashiv, Zichrono Libracha. Dans le traité Kiddushin, page 29a, les sages nous enseignent la liste des obligations qu'un père est tenu d'appliquer envers son fils. Premièrement, le circoncire. Deuxièmement, le racheter s'il est un premier-né. Troisièmement, lui apprendre la Torah. Quatrièmement, lui trouver une femme. Et cinquièmement, lui enseigner un métier. D'autres ajoutent qu'il doit également lui apprendre à nager. Cette dernière directive semble étrange. Est-ce vraiment essentiel qu'un père apprenne à son fils à nager? Alors qu'est-ce qui rend la natation si unique? Le Rav Eliashiv, dans son œuvre Divrei Agada, suggère que la natation est unique en ce sens qu'elle impose une participation active. Si nous déposons un morceau de bois dans une rivière, personne ne suggérerait qu'il nage. On dira plutôt que ce morceau de bois flotte. Son chemin et sa destination finale sont définis par les courants de la rivière. Le Rav explique que nager est une activité exigeant un engagement actif et employant des compétences pour lutter contre l'influence de l'environnement. Ne pas nager, dans le meilleur des cas, consiste à flotter sans but, et au pire à sombrer et se noyer. Le Talmud nous enseigne une notion fondamentale. Le père juif doit enseigner à son fils comment ne pas être passif dans la vie. Bref, comment être un nageur. En effet, le respect authentique de la Torah exige un état de contrôle permanent, afin de ne pas être influencé par les courants du monde et les courants qui la contrarient. Société, culture, expérience, entourage, médias, etc. sont autant de turbulences qui menacent et déstabilisent la direction que la Torah nous propose de suivre. Vivre une vie juive, une vie de Torah, ne nous permet pas de se contenter de rester à flot et de se laisser aller là où les courants nous portent. Vivre une vie de Torah, c'est nager contre courant. Plus encore, le Rav Eliashiv ajoute que le peuple juif est comparé au poisson. En effet, le verset nous dit « Vaigdou larov bekerev aretz » et que les bénis Israël puissent proliférer en abondance comme des poissons dans le pays, littéralement dans la terre. Et pas n'importe quel poisson, mais un poisson cachère, c'est-à-dire un poisson avec des écailles et des nageoires. Des nageoires permettant aux poissons de se mouvoir dans l'eau, dans une direction désirée, voire d'aller à contre-courant. Le poisson n'est pas victime des marées et des courants. La destination du poisson est déterminée par le poisson lui-même. Telle est la leçon essentielle du Talmud, selon laquelle un juif doit être maître de son mouvement dans le monde, et ne pas se laisser influencer par les forces extérieures. Les écailles, qui sont la deuxième caractéristique qui rend un poisson cachère, protège le poisson des dommages extérieurs. De même, le juif doit avoir des écailles qui le protègent du mal et des mauvaises influences. Nos écailles sont les connaissances en Torah et l'application des mitzvot. Le Rav Eliashiv ajoute un dernier point et nous cite à nouveau le verset « Vaigdou larov bekerev haaretz » que les bénis Israël puissent proliférer en abondance comme des poissons au sein de la terre. Le verset est a priori contre-intuitif. Comment le poisson pourrait-il proliférer sur terre? Ne devrait-il pas proliférer dans l'eau? La réponse est que le verset vient nous enseigner que le peuple juif doit posséder une force intérieure et une armure pour rester cachère, quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve. Internet est un outil merveilleux et brillant. Il permet non seulement de communiquer à travers le monde, mais aussi d'enrichir ses connaissances, d'explorer le monde entier, d'écouter des millions de chansons, de se divertir sur des jeux. Il nous guide lorsque nous sommes égarés. Il permet même d'enrichir nos connaissances en Torah sur de nombreux sites ou sur des groupes WhatsApp. Bref, il est indéniablement extraordinaire. Mais, il faut le dire, il y a un grand mais. Internet est éblouissant, certes, mais est rempli d'horribles pièges. Tout d'abord, le risque est presque inévitable d'exposition du contenu inapproprié qui détruit l'image de la femme, anéantit la beauté du mariage, pollue l'âme et remplit les jeunes de culpabilité et de dépressions intérieures, les éloignant de la prière et de la Torah, jusqu'à qu'ils se sentent complètement coupés de Hachem. De plus, Internet regorge de la chamara, de médisance, de violence, de mensonges, de ridicule, sans parler de la perte de temps que cela implique. Certes, grâce à cette masse d'informations, les réponses à toutes nos questions sont facilement accessibles. Cependant, nous sollicitons de moins en moins notre faculté à réfléchir, ce qui engendre une diminution claire de nos capacités cognitives. D'ailleurs, des études ont prouvé que le niveau de réussite scolaire et le quotient intellectuel ont diminué dans tous les pays développés. Nous devenons paresseux et dépendants du professeur Google, du docteur Google, du Rav Google, etc. Sur Internet, au nom du sacro-saint qu'est la liberté d'expression, tout peut être dit, tout peut paraître légitime, et les divagations d'un fou semblent aussi crédibles que les conclusions d'un prix Nobel. Les idées d'un farfelu sont mises sur le même piédestal que les enseignements d'un Rav. De plus, les algorithmes des moteurs de recherche tels que Google sont conçus de façon à hiérarchiser les sites Internet, non pas en fonction de l'authenticité de leur contenu, mais en fonction de leur popularité, du nombre de visites. Par conséquent, un site affirmant que la Terre est plate peut être mis en avant et nous donner ainsi l'impression que cette thèse est à prendre au sérieux. D'ailleurs, les mensonges, les théories complotistes et tout ce qui est farfelu attirent la curiosité. Et ainsi, les moteurs de recherche octroient une position avantageuse aux sites tordus, aux sites négationnistes, niant l'existence de l'Holocauste. Nous n'avons ni repère, ni référence. On ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. On ne sait plus distinguer entre le bien et le mal. Et on dira qu'une chose est impure, qu'elle est pure. Ce phénomène est ce que l'on appelle l'assimilation. En effet, l'assimilation ne se résume pas seulement par un abandon pur et simple de la Torah, mais aussi par une perte de sensibilité aux valeurs de la Torah, telles que la recherche de la sainteté, de la pudeur, de la vérité, etc. Or, Internet place la débauche, la mode, les mensonges, le lashon hara, la curiosité malsaine, la convoitise comme des valeurs cardinales. Et sur le long terme, en côtoyant ce monde virtuel, nous finissons par adhérer à cette échelle des valeurs contraires à la Torah. La débauche, la convoitise, etc. deviennent normales et justifiées. À ce stade, nous n'adhérons plus au modèle de la Torah, car nous ne comprenons pas ce qu'elle attend de nous. Parfois, l'assimilation prend une forme beaucoup plus grave, qui est la falsification de la Torah elle-même. Dans cette situation, nous pensons être complètement conformes aux préceptes de la Torah, alors qu'en réalité, nous avons rendu la Torah conforme à nos convictions en la transformant. On permet au nom de la Torah elle-même ce qui est interdit. On est indulgent à des situations dans lesquelles la Torah nous demande rigueur. On considère une chose saine, bien que la Torah statue qu'elle est malsaine, etc. Cette forme d'assimilation est le résultat de besoins d'autodéfense, ceci afin d'éviter les culpabilités et la condamnation de soi-même. Il est trop difficile de s'avouer être dans l'erreur, dans la faute, alors que nous cherchons consciemment ou non à trouver, voire à créer, des permissions dans la Torah. Mais cette forme d'assimilation peut être également la conséquence d'une désinformation issus de personnes s'autoproclamant comme autorité rabbinique, qui s'expriment au nom de la Torah. Ces personnes mal intentionnées, souvent très instruites en Torah, mais motivées par les honneurs, l'audimat, voire l'argent, et donc motivées que par leur ego, délivrent des messages complètement contraires à la Torah. L'internaute, émerveillé par les connaissances de l'auditeur, ne décèle pas le mensonge et la falsification de la Torah. Ainsi, les propos mensongers de ce pseudo-rabbin deviennent référence. Pour conclure, posons-nous les questions suivantes. Étant confronté quotidiennement à ce torrent d'informations prohibées par la Torah, contraires à la Torah, sommes-nous réellement capables de nager à contre-courant? Pouvons-nous suivre les recommandations du Talmud nous incitant à garder le contrôle? Y a-t-il un poisson qui aurait l'aptitude de nager dans ces courants si dangereux? Est-il vraiment sage de s'aventurer dans ce monde si sale, un monde sans règles qui permet au Yetzer Hara de s'exprimer en grande pompe? Qu'Hachem nous aide à renforcer nos écailles et nos nageoires, et que nous puissions accéder à une Torah authentique sans les influences qui nous entourent. Qu'Hachem vous bénisse, à bientôt.